Directeur général Adrien Selitte, quel moment de bonheur je vais vivre. Je suis avec le papa de Juliette, je suis donc avec Roméo. Bonjour Roméo.
Ah, bien joué, effectivement. Je suis le papa de Juliette, autrice, réalisatrice de Ils vécurent heureux, bien sûr, absolument.
Et en plus, Juliette, qui est ta fille, et où tu joues dans une de ses, dans sa pièce.
Non, Juliette, non, j'ai joué sous sa direction lors d'un seul en scène que j'avais créé il y a quelques années déjà. C'est la seule fois où j'ai joué sous sa direction pour un court-métrage, mais pour sa série, hein, pour TV5 Monde, qui a eu un très beau succès cette année sur tous les réseaux. Elle est en train de préparer la deuxième saison, mais je lui ai demandé si elle avait un rôle pour moi. Non, je crois que j'ai passé l'âge. Je ne serai pas un Roméo, je ne serai pas un Don José, je ne serai pas un Abélard. Donc, peut-être la troisième saison, elle va commencer à taper dans les histoires d'amour des gens plus âgés, peut-être verrons nous.
D'accord, donc c'est pas Roméo, c'est Marc.
Voilà, moi c'est Marc.
Et c'est le dénommé Marc Fayet, qui n'est pas n'importe qui, et que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelques jours à Cannes, puisque ta dernière actualité en date, c'est d'avoir joué dans le film de De Gaulle.
Oui, alors dans De Gaulle, absolument, mais pas dans le premier volet. Enfin, à moins que moi j'ai pas vu les projections, donc a priori je suis surtout dans le deuxième volet. Enfin, quand je dis surtout, le rôle est à, on était 80 ou 100 comédiens avec autant de rôles, c'était assez énorme comme tournage, assez fascinant d'ailleurs. Ils ont tourné pendant un an, moi j'ai eu quelques jours de tournage, mais je suis dans De Gaulle. Mais j'espère que je n'ai pas été coupé au montage, mais je crois surtout que je suis dans le deuxième volet qui sortira au mois de juillet.
D'accord. Alors, le théâtre, t'es tombé dedans quand t'étais petit?
Oui, absolument. La question ne s'est même pas posée. C'est une chose que j'ai imposée enfant à mes parents dès l'âge de 10 ans. J'avais déjà décidé que ce serait ou comédien ou rien. ou encore cycliste. Mais très vite, connaissant et voyant un peu comme on me considérait comme sportif assez moyen, j'ai très vite vu que j'avais pas la capacité physique de... et ni le potentiel de devenir un champion. Donc c'était le théâtre ou le vélo. Donc le théâtre a pris le devant et le vélo est resté derrière et devant aussi d'une autre manière, mais pas en tant que pratiquant, même si je le fais un peu, mais en tant que représentant de certaines instances et président d'une organisation d'une course cycliste.
D'accord. Le théâtre, c'est qui? C'est en ayant vu une pièce, on a vu un comédien particulier.
Oui, le théâtre, c'est le théâtre. On a tous été élevés à ça en tant que petits provinciaux. Je viens d'Aubagne, moi, Aubagne en Provence. Et la seule occasion de voir le théâtre, pour tout un chacun dans les années 70-80, c'était au théâtre ce soir. Ah, émission oui. Emblématique qui a permis à énormément de gens comme moi, de jeunes, de découvrir ce que c'était que le théâtre, même si c'était surtout du vaudeville et du boulevard, mais c'était des comédiens qui jouaient en vrai sur scène, avec un public qui réagissait, et ça c'était une ouverture extraordinaire et qui a fait naître des vocations, et la première, je pense, elle est par là. Et puis en découvrant ce comédien qui était absolument génial et que j'ai admiré toute sa vie de comédien et toute ma vie d'apprenti comédien, c'était Robert Hirsch qui intervenait beaucoup à la télévision à l'époque où ces grands acteurs de la comédie française participaient à toutes les émissions grand public de la télévision. Et voilà, Robert Hirsch, le théâtre ce soir, la vocation est née là.
Alors, ce qui est original, c'est que tu es comédien, mais tu es aussi metteur en scène et tu es aussi auteur.
Oui.
C'est une palette assez sympa quand même.
Oui, c'est sympa parce que j'ai très vite senti que être seulement interprète ne me suffisait pas. J'avais besoin de m'exprimer. Et s'exprimer, c'est pas seulement en étant un personnage dans une pièce et dans une situation, c'est le cas aussi, mais en dehors de ces moments qui nous sont offerts de pouvoir interpréter des pièces, de rester quelques mois dans l'attente ou juste en répétition, je me rendais compte qu'il y avait un manque et j'avais besoin de raconter des histoires. Puisque moi, mon approche du théâtre, c'était d'abord pouvoir raconter des histoires aux gens et raconter des histoires, autant qu'en inventer aussi. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à en inventer, à en écrire et à écrire mes propres pièces dans lesquelles je jouais parfois ou parfois pas, parfois à d'autres, je laissais le soin aux autres de les monter, mais cette volonté d'écrire m'a toujours habité, et puis mettre en scène, j'ai mis en scène parfois mes pièces, parfois pas, mais je veux être tout à fait libre par rapport à ça, c'est jouer, écrire, mettre en scène, et comme ça se présente, mais en tout cas toujours être dans cette activité de création.
Alors en plus, tu sais, par le micro, ça on le constate, mais tu te refuses rien puisque tu commentes une course cycliste.
Oui, enfin, j'interviens régulièrement, parfois dans certaines émissions sur le cyclisme, par l'écriture aussi, puisque je rédige des chroniques pour des sites, notamment Cyclisme Actu, pour ne pas le nommer, mais nommons-le, spécialiste dans le cyclisme. Et puis, je suis surtout organisateur, en tant qu'organisateur d'une épreuve cycliste professionnelle, hein, c'est le Tour du Finistère Pays de Quimper que je dirige depuis 5 ans, qui se situe dans la région de Quimper, comme son nom l'indique. Je suis très présent en termes de communication, et dans la communication, bien souvent, je réalise des sujets qui me permettent de raconter mon épreuve, d'être des vrais teasers et de jouer aussi avec le style. Je pense que s'il y a une chose dont je peux me vanter, c'est que je suis le seul comédien metteur en scène auteur au monde à diriger une épreuve cycliste française et internationale. Donc voilà, c'est mon fait de gloire. Je peux être dans le Guinness des records. Peuvent avoir ce privilège.
Oui, et puis en plus c'est en Bretagne, et la Bretagne est une terre de prédilection pour les cyclistes. Il y a quelques cyclistes un peu connus en Bretagne.
Absolument, et Bernard Hinault, le plus grand d'entre tous, il y en a d'autres bien entendu, Valentin Madouas aujourd'hui, David Gaudu, les jeunes générations, mais Bernard Hinault qui nous a fait l'honneur d'ailleurs cette année d'être notre invité d'honneur lors de la présentation officielle que je faisais de mon épreuve au mois d'avril, lorsque je présente à la presse et aussi à l'ensemble des partenaires la nouvelle édition, en présentant le parcours, les équipes engagées, et Bernard Hinault nous a fait l'honneur d'être présent. Bernard Hinault, que je croise depuis des années, évidemment, je ne suis pas breton, moi, je suis breton d'adoption, si on peut dire, finistérien aussi par goût, mais je n'y vis pas, je n'y viens que pour le vélo, parce que je sais, comme tu le dis, que toute la culture du vélo est tellement importante dans la région que pour un passionné comme moi, il fallait que je me rapproche des racines et de ces hommes qui ont fait le cyclisme breton et le cyclisme français et mondial.
Alors là, ton actualité, c'est que tu as le cœur qui bat très très fort, puisque tu joins tes deux passions, c'est-à-dire le vélo et le théâtre.
Parce qu'on absolument, est, on sur la proposition
Je ne veux pas dire moins de 24 heures, mais c'est carrément, c'est demain le jour merveilleux.
C'est demain soir, à la proposition de François Villa, qui a décidé de créer un événement pour annoncer l'arrivée du Tour de France, en tout cas le départ du Tour de France 2026,
c'est plutôt le départ,
depuis Barcelone. Et puis, il s'agissait de relier un peu la culture, le théâtre et puis le cyclisme. Et par un concours de circonstances, par ma compagne, tout simplement, qui est venue jouer à l'Institut français, qui a eu François Villa comme ça, comme interlocuteur. Et comme il cherchait, il a posé la question, elle lui a tout simplement dit que j'étais certainement l'homme adéquat, puisque étant auteur, metteur en scène, comédien, étant spécialiste du cyclisme, s'il fallait parler du cyclisme et de l'écrire et de le raconter, je pouvais être celui qui pourrait le faire. Et je me suis vraiment plongé dans ce travail avec une passion absolue. C'est donc une conférence spectacle que j'ai conçue d'1h10 et où je vais raconter ce lien entre la France et l'Espagne, avec tous ces champions espagnols qui ont brillé sur le Tour de France, avec ce Tour de France qui est à de rares occasions est quand même venu jusqu'en Espagne, ou a créé, effectué ses départs, comme cette année à Barcelone. Et c'est tout ce lien qui me permet, à partir de 1936 jusqu'à 2026, de faire un tour d'horizon des grands personnages qui font que la France et l'Espagne sont liées. Sans raconter, et je le raconte pourtant, mes premières vacances lorsque j'étais enfant avec mes parents, où nous venions tous dans les années 70 passer nos vacances en Espagne. Donc c'est tout ça que je raconte. Une histoire personnelle qui est aussi une histoire universelle, avec un événement qui est un événement hyper mondialisé, médiatisé, qui est ce Tour de France. L'occasion était trop belle. Donc c'est une conférence spectacle où je dirais, ça, le sous-titre, c'est presque dans les larmes et dans le sang, puisqu'il y a des drames, il y a aussi de la joie, il y a aussi de l'émotion, il y a des grands événements, des grands personnages, et au milieu de ce côté parfois pathétique, il y a aussi le côté magique et puis le côté poétique. Je crois que j'ai voulu lier ça, le magique, le pathétique et le poétique.
Alors, je me permets d'appeler François Villa, dont tu viens de parler, c'est attaché de presse, aussi bien sur le Festival d'Avignon, sur le Festival de Cannes, sur le prix de la citoyenneté, en particulier à Cannes. Il est aussi le créateur du Oui Festival, qui est le festival de théâtre en français de Barcelone. Et vous rappelez les auditeurs que j'étais au mois de janvier, j'ai suivi la totalité du festival, c'était passionnant et tout. Alors, ce qu'il y a, c'est, moi j'ai trouvé un peu étonnant le titre de ce texte, parce que ça s'appelle « Le vélo dans le sang ».
Le vélo dans le sang, parce que là au moins je traite tout. Le vélo dans le sang, on dit toujours, quand on est mordu par le vélo, qu'on a été piqué, on a eu une piqûre de cyclisme d'une certaine manière. Et le sang aussi, c'est quand quelque chose nous appartient, quand on a l'impression que ça fait partie de soi. Le vélo dans le sang, c'est ça. Mais il y a aussi le côté... je dirais le plus critique, qui est aussi tout ce qui a pu exister pendant certaines années, ce trafic qui permettait de modifier le sang en faisant augmenter le taux d'hématocrite des coureurs. C'était donc l'EPO qui permettait ceci. Donc le sang, et puis ce sang qu'on voit perler sur les genoux ou couler le long des genoux ou des cuisses des coureurs après leur chute, et malgré leur chute, remontent sur un vélo et même ensanglanté, continuent l'étape et vont jusqu'au bout. Donc le sang est présent, ce sang dopé, mais ce sang pur et ce sang qui coule dans nos veines quand on aime un sport, et puis ce sang du blessé, du coureur qui continue malgré tout, et je crois qu'il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'équivalent de sportifs qui, malgré une chute terrible, n'ont qu'un seul réflexe, c'est de remonter sur leur vélo, et qu'ils soient ensanglantés, ils ne s'en rendent pas compte. Ils verront plus tard, il y a plein d'images comme ça, où on voit ces champions, notamment des Bernardino ou des Raymond Poulidor, qui, sur des étapes de Tour de France, malgré une chute, dans un ravin, remontent, sont aidés à remonter sur le parapet, remontent sur le vélo, et arrivent, et après ils font les comptes en chemin ou à l'arrivée. Donc c'est pour ça que le sang était important, parce que quand on aime les choses d'une manière un peu passionnée comme moi, on dit toujours qu'on est des sanguins. Oui, on est sanguins, et dans tous les sens du terme.
Une chose qui m'a un peu surpris, c'est que c'est la première fois qu'un texte de théâtre est écrit spécialement pour le Tour de France. Ça m'a un peu étonné, ça.
Oui, et je pense que ça va être un exemple, parce que grâce à cette proposition de François Villa, j'avais jamais pensé à ça, à concevoir une sorte de conférence, spectacle. Mais utilisant le fait que je sois auteur, que je sois comédien et metteur en scène, ça me permettrait d'être au-delà d'un simple conférencier qui, au milieu des archives, pourrait raconter. Moi, j'ai voulu le théâtraliser, et je me suis dit que finalement, si c'est la première fois ici à Barcelone, et ça aura lieu demain, comme tu l'as dit, à l'Institut français, avec la complicité aussi de AESO, hein, l'organisateur du Tour de France, qui sont des amis, qui ont donné aussi leur accord, hein, pour que le Tour de France soit présent avec le logo, parce qu'ils savent, ils connaissent le sérieux de mon travail. Et ben, je me suis dit que c'était une chose peut-être à reproduire, et en fonction de la manière dont ça va se dérouler ici à Barcelone demain, et ben peut-être ça me permettra de communiquer là-dessus, de le faire savoir. Et merci aussi de me donner la parole, puisque grâce aux ondes et à ta diffusion, les gens le sauront. Mais il sera possible, je pense, et j'en ai la capacité et la preuve, hein, puisque je n'ai pas été à court d'inspiration, d'aborder des sujets comme ça, liant la vie et le sport, et le cyclisme. La vie et le cyclisme, une ville et le cyclisme, une région et le cyclisme. Et c'est peut-être quelque chose que je vais développer grâce à cette première édition.
Et moi, et puis si je puis me permettre, je vais faire une correspondance avec un type que je trouve formidable et qui a ramené un plus très conséquent sur France Télévisions, c'est Franck Ferrand, qui nous raconte l'histoire de France quand on suit les étapes du Tour de France. Ça, c'est génial. Dis-moi, par contre, il y a un truc qui m'embête un tout petit peu, là. Donc, ça se joue à Barcelone.
Oui.
Oui, mais Barcelone, c'est pas en France.
Oui, c'est... Pardon. Alors, effectivement, moi, je ne suis pas...
Comment je vais faire pour venir voir?
Oui, effectivement. est-ce qu'une captation est prévue? Je ne sais pas. Il faut que je demande à la production. Pour venir, c'est assez compliqué. Mais on va l'enregistrer, déjà. On va l'enregistrer.
Est-ce qu'il est programmé que tu viennes le rejouer en France après?
Eh bien... Je dirais que, en fonction de la manière dont ça va se dérouler ici, si je sens qu'il y a cette possibilité, pourquoi pas? Il faut trouver le cadre. Mais déjà, mes amis du Tour de France, de AESO, étant au courant de cette conférence, qui en auront des échos, et je vais leur envoyer des extraits. Peut-être ça nous permettra d'envisager cette chose-là à reproduire. Mais comme je l'ai dit, hein, là, c'est spécifiquement écrit ici pour Barcelone. Je peux en écrire pour d'autres et les adapter ailleurs. Mais pourquoi pas en France ? On verra. On verra. De toute façon, je suis de la préparation d'un seul en scène qui n'a rien à voir avec ce sujet-là. Mmh. Mais ça me ferait pas peur d'avoir deux seuls en scène, un sur le vélo et un autre du personnel sur la vie.
Oui, parce que dans les coulisses, par exemple, Gérard Rolls a été amené à suivre le Tour de France en tant que commentateur sportif, et tous les soirs, il laisse produire dans une salle de spectacle qui était à côté de l'étape. Donc ça pourrait être.
Absolument, et j'ai suivi ces moments-là parce que je suis très ami avec Gérard. Mmh. Et lors de certaines étapes, c'est ce que je faisais. J'étais dans la voiture avec lui sur l'étape la journée, et puis le soir, on allait comme ça. J'allais assister aux représentations. C'était un Molière à l'époque qu'il jouait. Et ça, la passion, lui, du théâtre, comme celle du cyclisme et du sport aussi de manière générale, mais la passion du théâtre est restée vraiment chevillée au corps. D'ailleurs, il continue à jouer. Et à produire des pièces du côté de Nice où il habite maintenant.
Ok, bah écoute, moi je veux te remercier. Donc si vous avez envie, vous faites plaisir, vous sautez dans le TGV, vous foncez à Barcelone, et puis vous allez à l'Institut français de Barcelone demain soir. Ça se joue combien de temps ?
Eh ben, une soirée à Barcelone et une soirée à Granollers, qui est à côté, hein, qui est une ville à proximité de Barcelone, et ça ce sera le 3 juin.
D'accord.
Donc le 29 à Barcelone, le 3 juin à Granollers, et peut-être en France si ces deux coups d'essai sont concluants, et j'en doute pas, je fais tout pour.
Merci en tout cas, merci à toi.
Merci, merci surtout de l'invitation, c'était très sympa, merci beaucoup.